Mes chers camarades, je n'étonnerai personne en disant que quel que soit le vainqueur de cette élection, notre sort ne sera pas modifié. C'est peut-être un enjeu pour la carrière de tel ou tel notable, mais pour les travailleurs, pour la population, cela ne changera rien. Déjà parce qu'un député de plus ou de moins ne modifiera en rien l'Assemblée nationale. En ce moment, on les voit, ces parlementaires, ces politiciens. Ils sont tous d'accord avec le patron sur la loi travail. Qu'ils soient de gauche, de droite, d'extrême droite, quand ils font mine de contester, ce n'est que sur des broutilles, des détails. Ils sont d'accord sur le fond. En fait, ils ne discutent que de la lourdeur des chaînes qu'ils veulent voir porter. Mais surtout, cette élection n'a aucun enjeu, parce que le Parlement n'a pas le pouvoir de changer le sort des classes laborieuses. Ce sont peut-être les députés qui votent les lois, mais ceux qui les font, qui les décident, ce sont les grands patrons, les grands groupes, les grandes banques. Ce sont eux qui dictent la politique de tous les gouvernements. Ce sont eux qui dictent toutes les mesures qui aident les riches et frappent les classes populaires. Les milliards de cadeaux aux banques et aux grandes entreprises, le recul de l'âge de la retraite, le gel des pensions et des salaires, et maintenant cette nouvelle loi travail qui est exactement le programme du patronat. Nous nous présentons malgré tout, pas pour faire des promesses. Ceux qui font des promesses mentent, parce qu'en fin de compte, la politique qu'ils voteront sera celle décidée par la bourgeoisie. Alors pourquoi nous présenter ? Simplement parce que nous n'avons aucune raison de nous taire. Partout, à la télé, dans les journaux, on n'entend que le point de vue des riches. On nous parle des problèmes des patrons, qui n'arrivent plus à vendre à cause de la crise. On nous bassine avec les problèmes des entrepreneurs, qui ont soi-disant peur d'embaucher. On nous assomme avec la concurrence internationale, la compétitivité, le coût du travail. Tout cela, ce sont les problèmes des capitalistes, pas les nôtres. Les soucis, les difficultés quotidiennes des travailleurs, tous ces gens n'ont absolument rien à faire. Le problème des travailleurs dont le contrat va se terminer et qui ne savent pas comment ils paieront les factures demain. Le problème de ceux qu'on oblige à chercher du travail à 50, 55 ans, alors qu'ils s'entendent dire partout qu'ils sont trop vieux. Le problème de ceux qui s'épuisent au travail et alors que leurs propres enfants ne connaissent que le chômage. Pour la bourgeoisie, tout cela ne compte pas. Mais pour nous, les travailleurs, ce sont des problèmes vitaux. Alors pour nous, les élections peuvent servir à exprimer les intérêts de notre camp. Voter pour lutte ouvrière, c'est à la fois dire haut et fort que le monde du travail n'en peut plus, qu'il ne croit plus les balivernes des politiciens. Mais voter lutte ouvrière, c'est aussi affirmer avec nous toute notre confiance dans la capacité des travailleurs à défendre eux-mêmes leurs propres intérêts. Notre région a une longue tradition ouvrière. Pendant des générations, les ouvriers du textile, des mines, de la métallurgie ont développé cette conscience de classe, cette fierté ouvrière. Nous sommes beaucoup dans cette salle à avoir eu des parents, des grands ou arrière-grands-parents qui l'avaient en eux. Pendant longtemps, nombreux ont été convaincus que ce ne seraient pas des notables, des parlementaires qui les défendraient avec leur discours de l'égoïsme et de l'avidité des patrons du textile ou des mines. Ils savaient que s'ils ne se défendaient pas eux-mêmes, les patrons ne leur céderaient rien. Pour cela, ils ont construit des organisations à eux, des partis politiques à eux, des syndicats à eux, qui exprimaient et défendaient ces idées-là. Cela n'a pas été facile, il a fallu combattre l'individualisme, les préjugés. Les travailleurs peuvent sembler tous différents, originaires de Belgique, de Pologne, du Portugal, d'Italie ou du Maghreb, avec des métiers différents, des hommes et des femmes, des embauchés, des intérimaires, plus ou moins bien payés. En réalité, nous faisons partie d'une même classe ouvrière, de ceux qui produisent tout, qui font tout fonctionner dans cette société et qui, exploités par le patronat, avons les mêmes intérêts face à la classe des capitalistes. C'est cela la classe ouvrière, c'est ce sentiment, cette fierté, cette conscience qui devient une force parce qu'il nous rassemble. Et c'est pour faire encore entendre le camp des travailleurs que nous nous présentons dans ces élections. Comme dans le reste du pays, le monde du travail se sent affaibli par le cancer du chômage, par la précarité engendrée par la fermeture de dizaines d'entreprises et le fait que nombre d'autres ont vu leurs effectifs fondre. Et cela, c'est une arme dans les mains des patrons. Combien de fois avons-nous entendu un patron dire « Si tu n'es pas content, j'en ai 10 à la porte pour prendre ta place ». Ils profitent au maximum de ce chantage à l'emploi. Pour augmenter leurs profits, leur politique a été de fermer des usines et de baisser les effectifs. Le résultat, les grands groupes capitalistes qui monopolisent des capitaux ont transformé la région en un champ ruinard. Les patrons du textile ont amassé des fortunes immenses par l'exploitation féroce de la classe ouvrière pendant décennies, hommes, femmes et enfants. Ils ont usé des générations de travailleurs jusqu'à la corde. Puis ils ont fermé les usines, laissant Roubaix, Tourcoing, Aluin, des villes entières dévastées par le chômage. Eux, ils se sont reconvertis, tout va bien. Les Mulliers, les Paulet, les Prouveaux, Mott, Tiberdien et bien d'autres ont continué leurs affaires juteuses dans la grande distribution, la vente à distance, l'assurance ou la finance. Ça va très bien pour eux. Par contre, une fraction croissante de la population est privée d'emploi, condamnée au chômage depuis des années. Nombre d'entre nous ne savent même plus ce qu'est un emploi stable. Au mieux, on accumule des contrats intérimaires, des contrats aidés de 20 ou 24 heures, des contrats de quelques heures non choisis. Nous sommes nombreux à avoir connu des licenciements, des missions d'intérim, le chômage. On a tous autour de nous des travailleurs qui se sont résignés à survivre avec les aides. Parfois, ce sont des jeunes qui sont découragés avant même d'avoir trouvé un premier emploi. Ce drame, ce sont les patrons qui sont responsables, directement. C'est leur avidité au gain et tout ce système qui ne voit le travail que comme un moyen de tirer du profit. Non seulement ils augmentent l'exploitation par tous les moyens, mais ils veulent en plus nous briser moralement. Notre conscience, c'est notre force. Alors ils voudraient nous l'enlever pour nous désarmer. Parce que, aussi dur que soit la vie aujourd'hui dans les quartiers ouvriers, les patrons n'ont pas fini avec nous. Ils en veulent toujours et encore plus. On le voit, le chômage continue à augmenter. Dans toutes les entreprises, les patrons réduisent les effectifs, même quand les productions restent stables. Là où il y avait 3 travailleurs, il n'y en a plus que 2, voire 1. Au nom de la compétitivité et de la concurrence, ils développent la précarité pour que la manœuvre soit la variable d'ajustement. Les commandes baissent, le patron n'a qu'à baisser les effectifs pour ne rien perdre. Ce sont les ouvriers qui perdent leur salaire, c'est-à-dire la seule chose qui nous sépare de la misère. Nous en connaissons tous des entreprises où les intérimaires représentent 30 à 40% des effectifs. À Dispéo, anciennement les Trois Suisses, sur les lignes de production, près de la moitié des salariés sont en intérim. Et ils subissent de plein fouet l'arbitraire de la direction. Embauchés à la journée, à 6h du matin, il est courant qu'on leur dise de rentrer chez eux à 9h parce qu'il n'y a pas de travail. Et pour une minute de retard le matin, ils sont licenciés sur le champ. Les patrons parlent de rationaliser la production, mais cela consiste uniquement à licencier par tous les moyens et à faire crever au travail ceux qui restent. Alors face à la catastrophe du chômage, quelle fausse solution des politiciens de gauche comme de droite ont apporté une fois de plus? Depuis des années, leur seule politique, c'est de verser des milliards aux patrons. Depuis des années, sous prétexte de lutter contre le chômage, les subventions aux entreprises se multiplient. Elles finissent toutes dans les poches des actionnaires et ils continuent de plus belle à supprimer des emplois. Résultat, il y a près de 400 000 chômeurs inscrits à Pôle emploi dans le Nord-Pas-de-Calais. Rien que dans une entreprise comme la Redoute, la direction supprime des emplois à tour de bras. Il y avait 6 300 salariés au début des années 2000. Il n'en restait plus que 2400 en 2014, près de 4 000 salariés au moins. Après cela, le richissime Pinault a revendu la boîte avec à la clé un plan de suppression de 1 200 emplois supplémentaires. Ce qu'il nous impose, c'est le chômage pour ceux qui partent et des conditions de travail infernales pour ceux qui restent. Changement de poste de travail en permanence, rythme et gestes répétitifs toujours plus rapides et pénibles. Une travailleuse sur poste de ramassage, par exemple, doit traiter plus de 60 articles à la minute. Xavier Bertrand a mené la campagne des régionales en promettant 60 000 emplois. Il a accusé Pôle emploi d'être incapable de trouver du travail pour les chômeurs. C'est pour cela qu'il a mis en place un numéro vert et une structure bidon qu'il a appelée Proche emploi. De nombreux travailleurs se sont précipités, mais la seule chose qu'ils ont obtenue, c'est un rendez-vous où on leur a dit de s'adresser à Pôle emploi. Car tous les politiciens savent venir nous expliquer que si on ne trouve pas de boulot, c'est notre faute. C'est qu'on est trop jeune, trop vieux, pas assez ou trop expérimenté. C'est encore une manière de cacher le fait que le seul responsable, c'est le patronat. Alors ils nous parlent par exemple de formation, comme si le problème c'était que nous n'étions pas formés. Le manque de formation, c'est une bonne excuse pour accumuler des stages gratuits, des périodes d'essai payées par l'assurance chômage. Les patrons profitent de ces circonstances pour combler des manques de personnel, obtenir des salariés gratuitement. Le gouvernement, lui, prétend s'attaquer au chômage en faisant la chasse aux emplois non pourvus. Devant l'acharnement que les patrons mettent à ne pas trouver de salariés disposant de la bonne qualification, on peut s'interroger sur leur volonté réelle. Un seul exemple. Depuis quelque temps, la SNCF supprime des trains sous le prétexte qu'elle n'arrive pas à trouver assez de conducteurs de train. Elle prétend qu'elle n'arrive pas à trouver de personnes prêtes à se former et aptes à faire ce travail. Tout cela, c'est une fois encore le moyen de faire croire que ce sont les travailleurs eux-mêmes, ceux qui ont un emploi comme ceux qui n'en ont pas, qui sont les responsables du chômage. Mais tous ces stages, ces formations bidons organisées par Pôle emploi, ces allocations qu'ils distribuent comme une aumône, ce n'est pas seulement dérisoire, c'est révoltant. Alors nous, face aux attaques que les patrons et les politiciens mènent ensemble contre le monde du travail, nous voulons affirmer notre fierté d'ouvrier. Au début des années 90, après avoir connu l'intérim, j'ai réussi à me faire embaucher, à décrocher enfin un CDI chez Hans Xerox à Neuville-en-Ferrin. Une boîte qu'on présentait alors comme une entreprise modèle citoyenne. La belle affaire. En 1996, l'entreprise modèle nous revendait une bande de Marcoulins, chargée de nous licencier plus tard, sans écorner la belle image de Hans Xerox. Et au passage, ces Marcoulins de Montserplex ont aussi empoché les aides de l'État et de la région. 3 ans plus tard, ils partaient avec la caisse, laissant 800 personnes sans emploi. Alors on s'est bagarré, on s'est mis en grève et on a réussi à faire payer Hans Xerox. Pas assez bien sûr, mais il a dû payer. Et en plus je prends 9 feuilles. En ce temps-là, c'était Jospin qui était Premier ministre et Martine Aubry, la ministre du Travail. Leur seul conseil, arrêtez la grève. La seule aide qu'ils nous ont donnée, des cars remplis de policiers. Dans ce gouvernement, il y avait aussi un certain Jean-Luc Mélenchon. Je ne me souviens pas de l'avoir entendu protester. Après cela, j'ai connu le chômage à l'intérim pendant 4 ans. Le chômage, c'est un bout du bâton qui nous frappe. L'autre bout, ce sont les cadences, les rythmes de travail, la productivité. Le patron affirme que pour créer l'emploi, il faut d'abord rétablir les marges, les profits. Bref, il faudrait que ces messieurs gagnent plus pour espérer que demain, ils embauchent plus. Tout cela, bien sûr, c'est du pipeau. Ça fait des années que les marges sont confortables et les licenciements continuent. Il veut nous faire avaler que la reprise passe forcément par des gains de compétitivité, c'est-à-dire des restructurations et des licenciements. Au nom de la productivité, des centaines de milliers de femmes et d'hommes ont perdu leur travail, des millions d'autres ont sacrifié leur salaire, leur jour de RTT, leurs conditions de travail. C'est au nom de la compétitivité qu'on se crève au boulot, qu'on fait des heures pas possibles, les cadences augmentent pour que l'entreprise grappille quelques centimes sur le concurrent. Et comme le concurrent fait pareil, ça continue encore et encore. Quel que soit le secteur, l'automobile, les transports, la banque, tous les salariés sont soumis à une discipline de fer. C'est la chasse à chaque minute perdue pour la production, que l'on soit dans les bureaux, les usines ou le commerce, que l'on travaille dans une petite entreprise ou dans un trust. Je suis maintenant aide-soignant à l'hôpital de Tourcoing. Là aussi, notre employeur fait des gains de productivité. Nous continuons à travailler pendant nos pauses. Nous partons souvent après l'heure et on nous demande de revenir travailler pendant nos jours de repos. Tout cela pour finir épuisé, abîmé physiquement et notre vie privée sacrifiée. Tout cela pour que l'argent public aille dans les poches des patrons plutôt qu'à l'hôpital. Les travailleurs en produisent des richesses. Ils ont su des milliards de profits. Rien qu'en France, les dividendes versés aux actionnaires ont atteint 47 milliards d'euros en 2015. J'arrive pas bien à dire le chiffre, j'ai pas l'habitude. 47 milliards d'euros en 2015. Les grands groupes du CAC 40 et les autres ont des carnets de commandes florissants. Les profits augmentent et les dividendes pleuvent. Mais pour tous ces profiteurs, pas question d'embaucher. Si on les laisse faire, les capitalistes n'ont pas de limite. Ils en voudront toujours plus. Ils utilisent le chantage à l'emploi pour imposer toujours plus de régression. Aujourd'hui, le gouvernement de gauche veut imposer aux travailleurs un retour en arrière d'une ampleur considérable. La loi El Khomri sur la réforme du droit du travail indigne et révolte nombre d'entre nous. Et il y a de quoi. Avec l'allongement du temps de travail, les heures supplémentaires décomptées sur plusieurs années et moins bien payées, le plafonnement des indemnités prud'homales, les journées de 10 heures pour les jeunes apprentis, la facilitation des licenciements économiques, cette réforme est une démolition du Code du travail, un recul grave pour tous les travailleurs. En réalité, elle favorisera le chômage. Si les patrons peuvent augmenter le temps de travail quotidien, payer moins cher les heures sup, flexibiliser encore plus les horaires, ils pourront se passer plus facilement des intérimaires. Et puis même sans cette loi, les patrons n'ont pas vraiment de difficulté à licencier, puisqu'ils produisent déjà 800 000 licenciements chaque année. En fait, cette loi est déjà en partie la réalité pour bien des travailleurs. Les patrons ne l'ont pas attendu pour imposer la flexibilité, les horaires dingues ou pour licencier dès qu'ils prétendent avoir des problèmes. Les patrons font déjà pression pour les heures sup et combien ne les déclarent pas. C'est pour cela qu'on disait tout à l'heure, dans cette société, ce ne sont pas les élus qui font la loi, ce sont les patrons. Cette loi remet aussi en cause ce que les travailleurs ont obtenu en 1936 par la grève générale. Le fait qu'un accord d'entreprise ne peut être inférieur aux accords de branche ou au code du travail. Si cette loi passe, chaque patron sera maître chez lui, comme au XIXe siècle. C'est déjà le cas pour bien des travailleurs isolés, à qui on ne paye pas les heures, à qui on impose des vexations, des insultes. Finalement, cette loi encourage les patrons à y aller encore plus fort dans leur guerre contre les travailleurs. Le PS, la droite et le FN sont tous solidaires des mesures du gouvernement socialiste, même quand ils prétendent le contraire. Ce que la droite et le MEDEF reprochent au gouvernement, c'est son manque de fermeté face au désaveu de la population. Pourtant, s'ils valent à reporter la présentation de la loi au Conseil des ministres, c'est pour tenter d'amadouer les confédérations syndicales. Quant au FN, qui prétend que cette loi est imposée par Bruxelles, il joue aux défenseurs des petits patrons en réclamant des aides, mais ne propose rien pour protéger les travailleurs. Cela montre que tous, droite, gauche, FN, sont dans le camp du patronat, malgré leurs discours électoraux. Les gesticulations des uns et des autres n'ont au fond que peu d'importance. Ce qui comptera, ce sera la réaction des travailleurs et notre capacité à descendre dans la rue, comme on vient de le faire hier. C'est d'ailleurs ce qu'ils craignent tous. À peine des pétitions et des appels à manifester ont commencé à se faire entendre, que Valls annonçait qu'il repoussait la présentation du texte pour modifier à la marge quelques articles, alors que c'est l'ensemble de la loi qu'il faut retirer. Il n'y a pas une ligne à en sauver. Le gouvernement et les patrons savent bien que si la contestation prend de l'ampleur, la situation peut devenir explosive. Les manifestations d'hier ont été incontestablement un succès. Beaucoup de travailleurs ont montré qu'ils ne voulaient pas de cette loi. Et il y avait du monde malgré les mots d'ordre flous des fédérations syndicales. Il faut tout faire pour que la mobilisation s'accentue jusqu'à ce que le gouvernement renonce à son projet de régression sociale. Il nous faut parler aussi de ces capitalistes qui nous font la leçon et n'ont jamais de mots assez durs pour parler des assistés qui touche les aides de l'État-providence. En réalité, l'État-providence, c'est aux capitalistes eux-mêmes qu'ils versent des aides par centaines de milliards. Ce sont eux les véritables assistés. Quel que soit le gouvernement, l'État distribue chaque année quelque 200 milliards au patronat sous forme de subventions directes, de baisses de cotisations, de diminution d'impôts. Et le gouvernement Valls a encore ajouté 41 milliards dans le cadre du pacte de responsabilité. Le patronat dit que c'est pour créer de l'emploi, mais c'est un mensonge grossier. 240 milliards d'aides publiques, cela représente l'équivalent de plus de 6 millions d'emplois payés correctement, cotisations sociales comprises. Pour le dire autrement, en distribuant l'argent public aux capitalistes, l'État paye directement ou indirectement le salaire de millions de salariés du privé, dont le travail n'enrichit que les patrons. Quant à toute cette accumulation de profits, à quoi sert-elle ? Les milliards que les capitalistes extraient de la production et de l'exploitation des travailleurs sont détournés vers la finance, la spéculation, qui offre toujours de meilleurs bénéfices immédiats. Autrement dit, plus les travailleurs triment, plus ils produisent de richesses, plus leurs conditions de travail et de vie se dégradent, et plus la spéculation grandit. À tel point que les gouvernements, les capitalistes et tous les soi-disant spécialistes qui les servent craignent que l'éclatement d'une nouvelle bulle spéculative affecte le système bancaire comme cela s'est produit en 2008, en aggravant encore plus la crise et la misère. Face à ce risque, les gouvernements ne peuvent rien. Mais la bourgeoisie elle-même n'y peut rien, car ce sont les lois folles du profit, de la concurrence qui l'imposent. Et ce danger, il nous menace tous. Cette économie, aussi injuste qu'irrationnelle, représente un gâchis sans nom. Et c'est bien cela qui nous fait dire qu'il faudra en passer par un changement de système économique. Nathalie vous en parlera. À chaque élection, les différents candidats vantent leur mérite personnel, leur attache locale et proposent leur catalogue de bonnes idées, de solutions. Le candidat socialiste, Alain Mézrague, dit qu'il veut récupérer les abstentionnistes et ceux qui sont partis au FN. Mais pourquoi, rien qu'à Tourcoing, la gauche a perdu 12 000 voix entre 2012 et 2015 ? Pourquoi les travailleurs qui faisaient la base électorale du Parti socialiste sont-ils tellement écœurés par sa politique au gouvernement qu'ils ne veulent surtout plus voter pour eux ? C'est bien parce que le PS au pouvoir dirige tous ses coups contre les classes populaires. Et s'il se dit à l'écoute de ses concitoyens, Alain Mézrague annonce à l'avance qu'il continuera à soutenir la politique de Hollande. Finalement, son seul argument est que si vous ne voulez pas du FN, il faut rassembler la gauche et tous voter pour le Parti socialiste. Il ne demande même pas à la population d'être d'accord avec la politique du gouvernement, mais de se forcer à l'approuver en espérant ne pas vivre pire. C'est pourtant la politique du PS au pouvoir qui pousse les travailleurs dans les bras du FN. Et que dire de la décision du Parti socialiste de se retirer au deuxième tour des élections régionales et de faire voter pour Xavier Bertrand afin, soi-disant, d'empêcher l'élection de Marine Le Pen à la tête de la région. Puisque le PS ne pense pas avoir des idées suffisamment différentes de celles de la droite pour les défendre au deuxième tour, pourquoi les électeurs devraient voter pour lui ? Le candidat du Parti communiste met une campagne pour l'humain d'abord et dire stop à l'austérité. Mais que faut-il pour stopper l'austérité ? Un député communiste supplémentaire ? Bien voté au Parlement ? Nous l'avons dit, les élus n'ont quasiment aucun pouvoir réel sur la situation. Quelle confiance ces travailleurs pourraient-ils avoir dans un parti qui n'a offert comme perspective que de voter Mitterrand, puis Jospin et enfin Hollande ? Un gouvernement capable de proposer le mot anti-travailleur encore plus dur que toute celle qui a fait passer la droite. Quelle confiance ces travailleurs pourraient-ils avoir dans un parti qui a appelé à faire obstacle au Front National au deuxième tour des élections régionales et à voter à droite ? Comme si Xavier Bertrand pouvait ou même voulait nous protéger des idées de la politique du FN. Quant à la candidate du Front National, elle se présente comme l'opposition au système mis en place par l'UMP et le PS. Elle dit qu'elle veut faire entendre la voix des oubliés. Hier, j'étais dans la manif avec mes camarades pour faire entendre la voix des travailleurs, pour manifester notre refus de la loi El Khomri. Je n'y ai pas vu la candidate du Front National. Sans doute qu'elle avait oublié ce jour-là d'être la voix des oubliés. Pour le FN, les responsables de la situation seraient les immigrés. Comme si c'était les immigrés qui fermaient les entreprises, qui licenciaient à tout va, qui provoquaient des crises. Ce n'est pas seulement ridicule, c'est injecter dans la classe ouvrière le poison de la division. Alors oui, le Front National est candidat à servir les intérêts de la grande bourgeoisie capitaliste. En réalité, quand il cherche à monter une partie de la classe ouvrière contre une autre, il sert déjà les capitalistes. Quand il fait croire que les responsables du chômage et de la misère, ce sont les travailleurs, il cache les responsabilités réelles du patronat dans la situation. En réalité, sans être directement au pouvoir, le Front National est bien un parti pour les riches, les bourgeois, les capitalistes. Il ne s'attaque à l'UMP et au PS que parce qu'il rêve de prendre leur place et de servir à son tour la soupe au patron. Nous connaissons tous des travailleurs qui votent Front National. Parce qu'ils sont écœurés par la gauche et la droite, parce qu'ils disent que ceux-là, on ne les a pas essayés. Il n'y a pas besoin d'essayer le Front National pour savoir que sa politique est tout au service des riches et des capitalistes. Depuis que je suis en âge de voter, je n'ai connu que mensonges, trahisons et coups bas de la part de tous les politiciens qui avaient promis de nous faire notre bonheur à notre place. Mais tout ce que les travailleurs ont pu gagner, ce ne sont pas les élections qui leur ont. Il a fallu qu'ils se battent pour l'arracher au patronat. Il a fallu que des travailleurs se battent pour empêcher que des enfants de 5 ans soient exploités dans les filatures et dans les mines. Il a fallu que des travailleurs se battent pour imposer la semaine de 40 heures et les congés payés. Et il faudra que les travailleurs se battent avec leurs propres armes, les grèves, les manifestations, pour empêcher les capitalistes de nous renvoyer au 19e siècle et pour offrir à toute la population un avenir qui ne soit pas fait de misère, de chômage et de guerre. Ça suffit. Ne laissons pas ces pantins recommencer éternellement leur comédie. Servons-nous de notre droit de vote pour exprimer notre sentiment d'appartenance au camp des travailleurs que tout oppose aux capitalistes et à tous les gouvernements à leur service. Désavouons la politique du gouvernement du point de vue des intérêts du monde du travail. Nous n'avons pas à choisir celui qui contribuera à nous opprimer demain. Voter pour le PS, la droite ou le FN, c'est voter pour nos ennemis et s'abstenir, c'est-à-dire se taire, ne sert à rien. Voter lutte ouvrière, c'est affirmer sa confiance dans la force collective de la classe ouvrière pour défendre ses conditions d'existence et pour mettre fin à cet ordre social injuste. Alors camarades, il reste 2 jours. Vous pouvez convaincre autour de vous, dans votre famille, vos amis, vos collègues, que chaque voix qui se portera sur ma candidature comptera, parce qu'elle exprimera l'existence d'une conscience de la classe ouvrière. Dimanche prochain, vous pourrez voter, faire voter lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs.